Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Hep la vélo! Hep la loto! Alors, on grille le signaux? Protestation, contravention. Prochaine fois, prêt attention.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. Notre actualité la plus récente conduit à s'interroger sur le rôle de la police dite de proximité au service de la paix civile en milieu urbain. Cela touche au premier chef, on le sait bien, la situation de ce qu'on est convenu récemment d'appeler les quartiers. Oui, oui, certes, mais pas seulement. L'ensemble de la vie d'une cité est directement concerné. À l'occasion des émeutes qui ont récemment secoué la nation, on a beaucoup débattu des vertus ou des inconvénients au quotidien de cette police visible et familière, de cette présence forte et assidue. Une police que l'on oppose volontiers à celle qui interviendrait seulement en nombre, ignorante des spécificités des lieux où elle opère, sans que puisse se créer avec la population des relations que l'on rêverait confiantes et qui seraient pour le moins suffisamment sereine, transparente et équilibrée. Quentin de Luermoz, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris Cité, s'est affirmé depuis quelque temps comme un historien averti des ordres et des désordres du XIXe siècle. Et il a renouvelé spécialement la réflexion sur la commune de 1871, sur ses suites et sur sa légende. Mais aujourd'hui, c'est dans la ligne d'un travail plus ancien que j'ai souhaité l'inviter, un livre vieux d'une dizaine d'années qu'il avait intitulé « Policiers dans la ville ». Cette ville, c'était Paris. Il y restituait la manière dont, depuis les débuts du Second Empire jusqu'à la veille de la Grande Guerre, le sergent de ville, devenu gardien de la paix, s'était intégré progressivement dans l'espace social, politique et mental de la capitale. Sans que cela, bien sûr, ait jamais permis qu'on fît litière d'un grand nombre de controverses, de résistances populaires, d'oppositions politiques et culturelles, dont l'évocation n'est pas moins éclairante pour une réflexion comparative par rapport à notre temps. Accueillons donc des pèlerines, des képis, des sifflets et des bâtons blancs.
La nuit descend, l'ombre s'étend, c'est pas du tout rassurant.
Oh là mon Dieu, un cri affreux vous fait dresser les cheveux.
Un long frisson vous secoue les nerfs.
Il y a du crime dans l'air. Il rôde des ombres d'assassins. L'étrangleur n'est sûrement pas loin.
Mais nous les agents de la circulation, on entend ça sans émotion. Les champions du petit bâton blanc, c'est nous.
Les assassins, c'est pas pour nous.
On peut être hyper incendiaire ou voler.
Notre consigne, c'est pas bouger.
On fait un effort parce qu'on est courageux.
Pour pas voir ça, on ferme les yeux.
Si l'on s'écoutait, bien sûr on bondirait.
Mais sans nos voitures et piétons, qu'est-ce qu'ils feraient?
Tous en mêleraient, se télestamperaient. vous seriez bien avancé après.
Vous seriez bien avancé après.
Non, nous les champions du petit bâton blanc, il ne faut rien voir ou faire semblant.
Si vous pensez qu'il y a trop de crime dans le quartier, adressez-vous au brigadier.
Hé, plein l'auto!
Le vélo, hein.
Alors, on grille les signaux?
Oui.
Protestation?
Contravention.
Prochaine fois, fais attention.
Eh bien.
Il fait un temps frigorifiant. À ne pas mettre dehors un agent. Quand on pense qu'il y en a qui sont dedans. Et qui boivent bon grog bouillant.
Pendant ce temps-là, il nous faut verbaliser la goutte au nez, ratatiner dans nos chaussures noires, nos tout petits bottons. Pauvres mignons, pour les glaçons. Et comme le froid rend les gens de mauvaise humeur, tous les quarts d'heure, un conducteur
vous traite de fripouille,
de vendu,
d'abruti,
de vieux débris.
Mais j'en oublie, comme on est très doux, on ne répond rien du tout.
Il faut se méfier, ça se prend si vite un mauvais coup.
Sur le bouquin de vin, il ne prend pas de main.
On relève le nom du Pékin.
On relève le nom du Pékin.
Puis on remet en marche son petit bâton blanc.
En se disant, plus que 15 ans. Et à la retraite, on pourrait comme piéton traiter les flics de tous les noms.
Quentin Deluermoz, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé La Gavotte des Bâtons Blancs, une chanson fameuse en son temps, sur des paroles de Jean Guigaud et une musique de Jacques Breu, interprétée bien sûr par les frères Jacques. On est là en 1948. Je me demande si en l'écoutant, vous avez trouvé, puisque nous allons parler des représentations, bien sûr, autant que des faits eux-mêmes, au centre de ce sujet, je me suis demandé si vous trouviez des permanences ou au contraire, vous étiez frappé par des différences par rapport à votre cher 19e siècle.
Alors, ce qui me surprend, c'est l'étonnante permanence. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement toutes les thématiques de l'imaginaire social du début du 20e siècle, en réalité, condensées dans une chanson. Je donne juste deux exemples. C'est cette opposition qui est frappante, mais extrêmement caractéristique du début du XXe siècle, entre d'un côté l'armée du crime. En 1907, on a une grande angoisse sécuritaire, donc on imagine qu'il y a des apaches partout, etc. Et on leur oppose, au fond, le bâton blanc des agents. Alors le bâton blanc, hein, c'est une innovation policière qui a été mise en place en 1896, qui scelle une nouvelle activité des gardiens de la paix, qui est effectivement la gestion des flux de circulation. Et en fait, en mettant l'un en rapport avec l'autre, le sous-thème, c'est celui de l'inefficacité policière. Donc en fait, en une chanson, on a tout l'imaginaire début du XXe en jeu. Mais ce qui est encore plus amusant, en un sens, c'est qu'on a aussi une espèce d'opposition sur le sombre et la lumière. En fait, l'armée du crime est du côté de l'obscurité, le bâton, il est blanc, c'est pas un hasard, on y reviendra. En fait, la question qui se pose, c'est aussi celle qui sera celle de la problématique un petit peu de notre discussion aujourd'hui, celle de la visibilité. En fait, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est sur le moment où les policiers en tenue, donc là, c'est plutôt au moment du Second Empire, au moment où les policiers se mettent en tenue. Auparavant, ils étaient masqués dans la foule. Et à partir de 1854, on décide de les rendre visibles. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que ça change, au fond, de rendre visibles des agents de l'État dans le quotidien de la ville.
Avec aussi cette interrogation qui parcourt toute votre étude, est-ce que les policiers tels que vous les voyez sont faits plutôt pour défendre l'État ou pour servir la population ?
Exactement, tout en réalité naît de cette ambiguïté. Alors peut-être on peut revenir sur la mise en place de cette police de proximité.
Si ah oui, j'allais vous y conduire en remontant donc à ce Second Empire avec cette date, parce que votre livre commence en 1854. Cela
tout
peut
à fait.
Étonner, surprendre, il faut que vous vous en expliquiez.
Exactement, il y a deux choses qui sont surprenantes, c'est que on est assez surpris de voir la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui une police de proximité sous le Second Empire, qui est souvent associé à un régime plutôt autoritaire et policier, ce qu'il était effectivement.
Au début du Second Empire, il est installé depuis très peu de temps, 1854.
Exactement.
Le ministre de l'Intérieur, Billot, vient proposer ça à l'oreille de l'empereur.
Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, comme on sait, le Second Empire naît d'un coup d'État. Et celui qui devient Napoléon III, en fait, est face à un véritable dilemme, c'est qu'il veut maintenir l'idée qu'il est dans un régime de type démocratique, et en même temps, il vient de faire un coup d'État. Donc il faut qu'il trouve, au fond, un instrument de police qui ne renvoie pas à l'image d'un régime autoritaire. Donc il ne peut pas réutiliser les forces de police des régimes précédents, qui étaient la monarchie de Juillet et la Restauration. Donc il faut qu'il trouve quelque chose.
Il s'agit à la fois de surveiller et de séduire, pour reprendre une formule de Jean-Noël Luc.
Exactement. Alors ce qu'il trouve, c'est au fond, c'est de faire appel à une police qui est très à la mode à l'époque, mais très présente à l'étranger. C'est la police britannique, le fameux Bobby londonien. Alors de quoi s'agit-il en fait? C'est en 1829... à Londres, se mettent en place ces agents qui sont des agents en uniforme, sans armes.
Sans armes, c'est très important.
C'est le plus important. Et l'idée, au début, ils sont pas très bien reçus en réalité par la population britannique, mais entre 1829 et 1848, ils apparaissent comme une trace de l'excellence du système politique britannique. C'est une police libérale, parlementaire, en tout cas elle est perçue comme telle, notamment parce que la Grande-Bretagne a échappé à la vague révolutionnaire de 1848, et un des arguments qui est proposé, c'est que c'est parce que son système politique est meilleur qu'au fond, ils ont échappé à cette vague. Donc ce que fait Napoléon III très habilement, c'est qu'il se réapproprie cette police qui passe comme le modèle de la police libérale de l'époque, et il l'applique dans la capitale. Sachant que cette police, elle est ambiguë, elle est à la fois liée au ministère de l'Intérieur, et en même temps, elle est censée être disponible aux habitants. Donc elle sert effectivement à la fois surveiller et séduire.
Il n'est pas indifférent qu'elle se développe en un temps où on va voir l'exposition universelle, les grandes modifications de la capitale du temps avec le baron Haussmann. Ce n'est pas sans rapport.
Oh, c'est plus que lié, en fait. C'est qu'en fait, avec cette police, il répond à tous les espoirs qu'il voulait mettre en œuvre à ce moment-là. D'une part, en fait, ça lui permet quand même d'augmenter les effectifs de police. On passe de 750 à 3000. Donc pour le contrôle d'une capitale qui est quand même très révolutionnaire, c'est quand même plus efficace. Ensuite, l'idée, au fond, de l'époque, qui a un peu disparu depuis, c'est que la visibilité policière empêche le crime. Les criminels voudraient agir, ils voient un policier, ils ne le font pas. Donc ça répond à l'angoisse du crime qui monte depuis les années 1840.
Et puis, on est en opposition avec ce que déclarait plus récemment, par exemple, Charles Pasqua, qui disait que la répression est la meilleure des préventions.
Là, on est dans la politique exactement inverse, c'est qu'au contraire, la prévention doit empêcher l'augmentation des crimes. Alors une des raisons, là je fais une petite digression, mais une des raisons qui explique un petit peu la critique qui a été faite à l'égard de la police de proximité par Pasqua et Nicolas Sarkozy, c'est que le problème de la police de proximité, c'est que vous ne pouvez pas évaluer des crimes qui n'ont pas eu lieu. Donc en fait, quand on est dans une culture du chiffre, c'est une forme de police qui est contradictoire avec la culture du chiffre. C'est pas le cas sous le Second Empire.
Et d'ailleurs, Sarkozy a dit aussi qu'il ne devait pas être des travailleurs sociaux dans une formule fameuse adressée aux policiers. C'était déjà le grand débat sur la politique de l'îlotage.
Oui, complètement.
Qui parcourt notre propos, forcément.
Tout à fait. Ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a eu une histoire de cette police de proximité en France. Souvent, dans le débat des années 2000, on disait que c'est une police qui n'était pas adaptée à la France. En réalité, c'est une erreur historique. Il y a eu un moment, parisien en tout cas, de cette police de proximité dont on a complètement oublié les enjeux.
Ça me fait penser aussi, c'est un peu là aussi une digression, mais à cette œuvre mineure d'Hergé qui s'appelle Kik et Flux. On est en Belgique, là à Bruxelles, où effectivement les deux gamins sont sans cesse en dialogue avec les deux gardiens de la paix en pèlerine.
Tout à fait. Et là, on est vraiment dans l'imaginaire du policier un peu paternaliste qui accompagne les enfants dans leurs bêtises. En les empêchant au fond d'aller trop loin. Là, on est vraiment dans cet imaginaire que j'évoquais au début de notre entretien, qui est l'imaginaire du début du XXe siècle. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on entend par police de proximité en 1854 n'est pas du tout la même chose que ce qu'on y a mis dans les années 2000. Là, il y a vraiment l'idée qu'au fond, c'est une police qui va empêcher le crime. Et la troisième logique, c'est la logique du prestige. Vous avez évoqué l'exposition universelle de 1855. C'est pas un hasard. Le moment où la police britannique a été le plus mise en majesté, c'est le moment de la fameuse exposition universelle de Londres de 1851. Et l'exposition universelle de 1855 est la réponse parisienne à Londres. Et évidemment, et ça se voit très bien dans les archives, le ministère de l'Intérieur insiste pour que cette nouvelle police soit en activité pour 1855, c'est-à-dire en moins d'un an. Il y a une vraie insistance politique derrière cette mise en place. Alors vous évoquiez aussi Haussmann. Bien sûr, Haussmann, les fameux travaux haussmanniens à partir des années 1850. Il faut juste rappeler le lien entre les deux. Ce que fait Haussmann, c'est qu'il élargit les voies de circulation, il met en place des nœuds de circulation. C'est l'époque où se développent également les égouts, la mise en place des parcs. On passe d'un Paris à 20 arrondissements. Et la grande idée d'Haussmann, c'est d'assurer la circulation, la fluidité, l'ordre et l'hygiène. Or, cette police, c'est une police qui circule continuellement dans l'espace parisien. Donc c'est une police dont le principe correspond parfaitement au principe du nouvel ordre haussmannien.
Ce qui est aussi très nouveau par rapport à la période antérieure, on peut remonter naturellement à Vidocq, c'est que c'est le développement de l'uniforme. Jusque-là, ce qui était le plus fréquent, c'était les agents civils pour attraper les méchants. C'était le cas des mouches. Un humoriste a dit qu'on passait de l'époque de la mouche à l'époque de la vache. Ouais. Et puisque je parle d'humoriste, je vais vous faire entendre, vous me direz si c'est une représentation durable, je vais vous faire entendre un sketch de Coluche bien connu. Le flic, 1976.
Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Non, mais l'uniforme, il est pour beaucoup. Hein. Non, parce que ma femme me dit toujours « T'as signé sans réfléchir. » La police, c'est trop ingrat comme métier. C'est vrai, c'est ingrat, la police. Parce que, par exemple, parce que je vois, parce que les gens, ils nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger. Hein. Eh bien, remarquez, les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. C'est flagrant, c'est dans les manifs. Les gens, ils ont peur, hein. Parce que nous, on est là, bon, et on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. On est obligé, hein. Ah non, mais on fait gaffe, hein. On tape avec le plat de la main comme ça dans les côtes. Alors ça fait vachement mal, mais ça fait pas de traces. Ah non, parce qu'on n'a pas droit aux traces. Parce que les mecs, quand ils ont des traces, ils, pareil, peuvent porter plainte. Ok, faudrait qu'ils viennent au commissariat, hein, pour porter plainte. Je vois, parce que, par exemple, il y a des gens, ils disent, la police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et au PTT. Eh ben, je vais vous dire, franchement, c'est exagéré.
On est là, Quentin de Luermoz, on est là du côté de la légende noire, qui existe déjà d'ailleurs sous le Second Empire. Je vois ce propos, par exemple, de Paul Féval, l'auteur du fameux Bossu, du Loup Blanc, que nous lisions jadis dans la Bibliothèque Verte. Il écrit à propos d'inspecteurs qui sont sur le point d'arrêter un malfaiteur. Il reste les parias de notre civilisation qu'ils protègent d'en bas. On les déteste, on les méprise. Nous, les Français, les spirituels par excellence, nous avons un faible pour les voleurs. Quant aux gendarmes, quelle horreur! Et ne prononcez même pas le nom des sergents de ville, c'est shocking, l'Angleterre. Aller contre cela, ce serait se briser contre le caractère même de toute une nation. Nous sommes avides de crimes et gourmands de coquins. Je ne sais pas si Paul Féval rejoint Coluche ou au contraire se pose contre lui avant.
En tout cas, on retrouve effectivement tous les ingrédients de cette fameuse légende noire de la police parisienne. Enfin, c'est pas une légende noire, c'est plutôt il y a un imaginaire négatif de la police qui traverse tout le 19e et le 20e siècle. Alors, quelles sont ses origines? Vous les avez évoquées un petit peu. Faut rappeler que Paris, c'est un lieu à part aussi dans l'espace national policier. C'est mis en place la lieutenance générale de police en 1667, qui s'est caractérisée notamment par l'usage d'espions. Et donc, c'est le premier ingrédient de cette image noire. Le policier est un espion. C'est le moment justement où il était sans uniforme. Et donc on craignait qu'il vienne vous tomber dessus.
On remonte à Vidocq.
Là, on est avant Vidocq encore. Vidocq, c'est après. Donc on a la préfecture de police qui se met en place en 1800, qui est une vraie singularité jusqu'à aujourd'hui hein, dans le système policier français.
Vous pensez au XVIIIe siècle, au lieutenant de police.
Oui, tout à fait. Alors Vidocq, lui, se met en place en 1821. Et sa particularité, c'est que c'est les origines de la police judiciaire. Mais pour mener cette police judiciaire, il utilisait des anciens criminels. Donc ça donne la deuxième strate de cet imaginaire noir.
Qu'il était lui-même,
c'est que les policiers sont des criminels. Et la troisième strate, elle vient avec la mise en place de l'uniforme, parce qu'en fait, on a quelques policiers en uniforme avant la grande réforme de 1854. En 1829, les policiers sont habillés en uniforme, on les compare à des militaires. Donc ça, c'est la troisième strate, c'est que les policiers sont violents. Donc on a avec le policier espion, le policier criminel et le policier violent, vous avez les trois ingrédients d'un discours qui va être remobilisé tout au long du 19e et du 20e siècle, parfois, à juste titre, c'est-à-dire au moment des manifestations lorsque les policiers ont la main trop lourde, parfois, c'est un véritable imaginaire, c'est ce que dit Paul Féval, le meilleur moyen de se rendre compte de son poids, c'est de le comparer avec ce qui se passe en Angleterre, où la police, qui est tout aussi brutale dans les manifestations, jouit d'un imaginaire positif. pour ça que Paul Féval dit c'est shocking, c'est un jeu de mots que tout le monde comprend bien à l'époque. La bonne police de l'époque, c'est la police britannique. Et la mauvaise police, c'est la police française.
Il y a un journaliste fameux, l'auteur d'une trilogie que chacun connaît, Jules Vallès, qui est un grand opposant de l'Empire, et qui écrit, on est là dans la ligne de cette légende noire, « La dignité, la liberté, la santé, la vie sont là à la merci du premier agent, indigne de son uniforme, qui sera ivre, bête ou fou, qui se trompera, ou cela s'est vu, se voudra venger. » Donc, légende noire. Et en même temps, on ne peut pas s'en tenir à cela, car il y a aussi des efforts de l'empereur pour créer une certaine adhésion de la population. L'exemple frappant du numéro du collet, sur le collet de la veste, c'est assez représentatif.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant avec ces sergents de ville, c'est qu'ils correspondent parfaitement à la définition politique du Second Empire, qui est ce qu'on appelle une démocratie illibérale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un régime qui dit qu'il tient son pouvoir du peuple, mais illibéral parce qu'il interdit toutes les délégations entre le peuple et l'empereur. Donc,
formule anachronique, mais parlante.
Oui, de Pierre Rosanvallon. Donc le Parlement a très peu de pouvoir, il y a une censure de presse qui est appliquée, et on utilise les policiers pour essayer de capter les rumeurs de la ville. Donc cette police qui essaye de surveiller et séduire, elle correspond parfaitement à cette idée de démocratie illibérale. Alors pourquoi le numéro de collet? Parce que le problème de ces policiers en agent, c'est qu'ils font furieusement penser à des militaires. Or, le Second Empire veut éviter ça, il veut que ça puisse renvoyer à la police britannique. Par ailleurs, on refuse de les désarmer, on estime qu'il y a un caractère français qui impose le maintien de l'arme.
Ils ont une épée ?
Ils ont une épée.
Ils ont un pistolet ?
Ils n'en ont pas encore, le pistolet arrive plus tard. Oui. Mais le maintien de l'épée est vraiment une adaptation française qui change profondément le modèle de départ. En revanche, ce qu'on garde de la police britannique, c'est ce fameux numéro de collet qui est censé permettre en fait à la population de désigner l'agent à qui elle a eu affaire nommément et en fait de forcer l'agent à être responsable de ses actes. On est dans un monde où la question de la visibilité, on y accorde énormément d'importance. En fait, l'idée, c'est que le policier, on le met dans la rue et comme il est visible, d'un côté, les criminels vont ne pas commettre de crime, mais de l'autre, lui, il va être obligé de respecter la population parce qu'il est soumis à son regard.
Je relève dans le journal des Goncourt cette formule qui va dans le sens de ce que vous dites. La France est un pays où il y a des sergents de ville partout.
Alors c'est lié au fait que ces sergents de ville circulent, donc c'est le principe de l'îlotage, hein, ils sont à l'échelle d'un poste de police, et ils circulent dans le même ensemble de rues en permanence, donc c'est quelqu'un qu'on finit par connaître. Et on a cette impression d'une présence permanente, en réalité, elle est intermittente. Mais c'est vrai que c'est un énorme changement par rapport à la situation précédente.
La ronde est une chose qu'on invente à l'époque. Mais une ronde qu'on fait seule ou à deux? On dit toujours que les Pandores viennent deux par deux comme les bonnes sœurs.
Non, elle se fait seule en journée et à deux la nuit. Alors ce qui est intéressant, ça renvoie un petit peu à cette question de l'image noire, c'est que concrètement, ça signifie que le policier, il est tout seul sur le terrain les trois quarts du temps. Donc il échappe à l'institution policière, donc il y a une vraie part d'arbitraire dans son action qui nourrit également cette image noire dont on a parlé tout à l'heure.
Il n'y a pas de formation à l'époque. Comment les recrute-t-on? C'est toujours essentiel.
En fait, ce sont souvent d'anciens militaires qui ne reçoivent pas de formation. On leur donne quand même un manuel, hein, qu'on appelle le manuel Roret, qui est caractéristique de ce que j'avais appelé l'oxymore policier, c'est-à-dire qu'on leur demande d'être à la fois ferme et poli, inflexible, mais doux. Donc évidemment, on fait un peu comme on peut sur le terrain. Et en gros, les agents voient l'officier de paix le matin. Et après, ils sont tout seuls sur le terrain le reste du temps. Le seul moyen de contrôle que l'administration a, c'est les écrits de l'agent. C'est-à-dire que dès que l'agent a affaire à quelque chose, il doit faire un rapport. Et le rapport sert en fait autant à dire ce qui s'est passé qu'à être le début d'une chaîne judiciaire, qu'à savoir ce que le policier a fait pendant sa tournée.
On peut dire à ce propos, parce qu'il faut toujours s'intéresser sur les sources d'un travail comme le vôtre, Quentin de Luermoz, que ces rapports de police sont un des éléments de votre étude, avec aussi d'ailleurs les mains courantes.
Tout à fait, alors vous avez raison d'insister dessus, ça a été une chance extraordinaire. Alors les rapports de police, on en trouve quelques-uns, les mains courantes sont conservées aux archives de la préfecture de police. Ce qui est très intéressant, c'est que ma source a évolué au cours du temps. En 1854, comme les agents ne sont pas formés, enfin de 1854 à 1870, ils connaissent pas les codes. Donc en gros, on va voir dans les rapports de police, j'ai vu deux personnes se taper dessus, peut-être qu'on peut appeler ça une rixe. À la fin de la période, en 1900, ils font plus l'erreur. Ils disent, j'ai assisté à une rixe, donc une codification. Et la source est moins parlante à la fin de la période qu'au début. Les rapports de police du début du Second Empire sont absolument passionnants pour l'étude des rapports police-population, parce que comme ils ne contrôlent pas les catégories qu'ils sont censés utiliser, ils dévoilent assez maladroitement, j'ai envie de dire, l'interaction. Alors, les mains courantes, c'est encore plus intéressant, puisque c'est ce qui se passe ensuite au niveau du commissaire de police. Mais comme les commissaires de police sont un peu méfiants à l'égard des sergents de ville, on leur demande de se justifier, et on va avoir aussi la version de la personne qui vient d'être arrêtée. Donc, pour une étude, au fond, des rapports police-société, c'est absolument passionnant, parce que quand on étudie des rapports de police, souvent, on dit on ne peut étudier que la façon dont la police se raconte elle-même. Pas à cette période-là. À cette période-là, on a des traces des échanges qu'on lui a avant, et on peut commencer à faire une étude en termes d'interaction entre les policiers et les habitants.
Dès à présent, il faut insister sur le caractère ambivalent, comme vous le faites, image noire, mais aussi des moments de sympathie qui se retrouveront ensuite. On pense à la formule fameuse ultérieure de Courteline dans Le Commissaire est bon enfant. Les agents sont de braves gens, qui en fait est empruntée à une chanson, qui est une chanson qui remonte à 1893, une chanson de Yong Lu. C'est un peu après la période du Second Empire, mais elle mérite d'être écoutée. Elle est chantée ici par Paul Dutreux en 1906, la ballade des agents.
Étant de service, se baladaient nonchalamment. L'un s'appelait du nom Sulpice, l'autre Bastien tout simplement. Tout à coup, entendant dans l'ombre, prière au secours à l'assassin. Les agents n'étant pas en nombre, escaquèrent dans le coin d'un magasin. Au passeur de ville, pour garder la ville. Quand on peut risquer de faire attaquer, citoyens, la police veille, formez bien sur chaque oreille. Les agents sont de braves gens qui se baladent. Les agents sont de braves gens qui se baladent tout le temps. Pan, pan, pan. Les agents sont de braves gens qui se baladent, les agents sont de braves gens, qui se baladent tout le temps. Et blanc!
La notion de braves gens, c'est vraiment une notion qui émerge sous la Troisième République. Sous le Second Empire, même en termes d'imaginaire social, c'est plutôt l'image de l'efficacité policière qui va être développée. Et dans la rue, les agents sont confrontés... Alors, il y a ces phénomènes d'entente que vous évoquez, c'est-à-dire que les agents, comme ils habitent dans le quartier, évidemment, ils connaissent tout le monde. Donc ils ont des crédits chez le laitier, donc tout ça, ça les oblige en quelque sorte vis-à-vis de la population locale.
Mais la hiérarchie n'est pas contente quand ils sont endettés, c'est mauvais pour leur image dans le quartier.
Exactement, il y a une surveillance aussi de la vie privée du policier.
Souvent c'est le mari des pipelettes, des gardiennes.
C'est ça, et puis tout le monde le connaît, il passe aussi pas mal de temps, certains, dans les débits de boissons, donc l'institution policière se méfie d'eux. Et l'autre chose qui rencontre dans la rue, c'est des ordres un peu inattendus, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une période sous le Second Empire où des foules entières sont capables d'empêcher l'action policière. Dans l'ouvrage, j'insiste sur cette idée qu'il existe des ordres de la rue, c'est-à-dire qu'il y a des moments et des lieux, il y a des groupes sociaux, les familles, certaines professions, qui vont plus résister à l'agent que d'autres. Donc l'agent, il est obligé de composer en permanence, en fait. Il ne peut pas imposer l'ordre qu'il veut, il doit s'adapter à une rue qui est solide, consistante, résistante.
C'est très intéressant les moments où, effectivement, tout à coup, il se crée autour de l'agent et de son comportement une espèce de protestation spontanée d'un groupe où vous donnez beaucoup d'exemples que vous empruntez à vos rapports de police et à d'autres regards.
Tout à fait. Alors ça, c'est les mains courantes du quartier de Belleville qui sont absolument passionnantes de ce point de vue-là, puisque Belleville, c'est un des quartiers où l'opposition à l'action policière est la plus forte. C'est un quartier qui est très ouvrier, où les logiques d'occupation de la rue sont très importantes. Hein. On vit dans la rue, on est en famille... dans la rue, les groupes circulent ensemble. Donc l'intervention policière, en général, se heurte à ces groupes qui, en gros, lui disent « vous n'êtes pas chez vous ».
Vous citez, effectivement, on est déjà en 1872, mais l'événement aurait pu survenir avant, rue de Palikao, à Belleville. Palikao, c'est symboliquement une victoire des Français et des Anglais au moment de la guerre de l'opium. Rue de Palikao, l'épicier Lucas... qui a des raisons, comme on dit, avec un de ses garçons qu'il vient de mettre à la porte. Un rassemblement s'étant formé, les gardiens Jean Liani et il sont intervenus pour faire cesser le scandale. La femme d'Ouriès, c'est la femme de l'épicier, s'est écriée qu'elle les emmerdait, qu'elle n'avait pas peur des agents. invitée de nouveau à se retirer, elle a opposé une vive résistance, a saisi l'agent Jean Liani par sa tunique, l'a mordu à l'index de la main droite et les a traités de canailles, assassins et filous. Devant l'attitude menaçante de la foule, qui a cherché à délivrer cette femme, les gardiens ont dû mettre la main au sabre pour éviter d'être frappés. Lucas s'est jeté sur Jean Liani et a cherché à le désarmer. Cet épisode est assez topique.
Ouais, il est complètement caractéristique de ces fameux ordres de la rue face auxquels le policier est confronté. Alors évidemment, ils n'ont pas la même densité si vous êtes à Belleville ou si vous êtes à Odéon. À ce moment-là, il y a des variations sociales et géographiques.
Il n'y a pas le même nombre d'ailleurs de policiers dans les beaux quartiers, comme on dit, et dans les quartiers plus populaires.
Oui, tout à fait. Alors avec une logique qui peut paraître curieuse aujourd'hui, mais qui en fait est tout à fait compréhensible si on se replace dans le 19e siècle, ils sont plus nombreux dans les quartiers, dans les beaux quartiers que dans les quartiers populaires. Parce qu'encore une fois, c'est une police qui est censé, et qui est aussi une police de prestige, qui est censée assurer un ordre du quotidien. Et l'idée de départ, au fond, c'était que normalement, ces agents devaient être équitablement répartis dans tous les arrondissements. Mais une fois que Paris s'est agrandi à 20 arrondissements, on n'avait pas les moyens. Donc une espèce de distribution un peu inégale. Les quartiers les plus excentrés, les quartiers les plus ouvriers, ont moins de présence policière que les quartiers centraux. Alors qu'aujourd'hui, dans le débat justement sur la police de proximité, l'idée c'est qu'il faudrait une police de proximité dans ces quartiers excentrés, que sont les quartiers, les cités, etc. Donc il y a vraiment une lecture de l'usage de la police de proximité qui est complètement différente.
Ils sont combien ?
Ils sont 3000 en 1854, et ils arrivent à 6000 sous la Troisième République.
Alors voilà la Commune, voilà la transition, voilà la guerre de 70 et la Commune. On va passer des sergents de ville aux gardiens de la paix. Un mot sur ce moment-là.
Oui, alors qui est très important, parce que en fait, au moment où le Second Empire s'effondre de septembre 1870, la République est installée, et elle ne peut pas reprendre à son compte un agent qui a aussi fortement symbolisé le Second Empire, et qui en plus symbolise un Second Empire qu'on dépeint comme absolument autoritaire, policier. Alors il était autoritaire, mais sur le plan policier, on a vu que c'était un peu plus subtil que cela. Donc tous ces agents sont démis de leurs fonctions. Mais comme il faut quand même assurer une police dans le Paris républicain, en fait, on reprend les mêmes agents le 19 septembre. On leur enlève la moustache. La moustache est associée à un symbole d'autorité trop fort. On les désarme et on change leur nom. On les appelle les gardiens de la paix publique.
Je m'attarde un instant sur la moustache parce que l'histoire politique du poil à travers les âges est évidemment un thème absolument passionnant. Au début du Second Empire, Napoléon III voulait qu'on coupe la barbe des enseignants. C'était un foyer d'anarchie. Et là, on retrouve la moustache comme un enjeu.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une vraie histoire. Hein. Sous le Second Empire, les policiers sont moustachus et barbus, mais ils ont la barbe taillée à l'impériale. En tout cas, c'est ce qu'on leur suppose. Ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les phases de transition politique, on va demander aux policiers de se raser la moustache. Ça a été le cas en 1848, et c'est le cas à nouveau en 1870. Parce qu'on associe au port du poil un symbole d'autorité, c'est évidemment lié à toute une question du lien à la virilité qui est à l'œuvre derrière la notion d'autorité au XIXe siècle. Et donc dans ces moments un petit peu de transition, on va essayer d'assouplir un petit peu l'image. Ce qui est intéressant, c'est que je suis tombé sur un rapport de police beaucoup plus tardif sous la Troisième République. Mais sous la Troisième République, le port de la moustache par le policier est obligatoire. En fait, je suis tombé sur un texte où le policier s'excuse d'avoir brûlé sa moustache en s'allumant sa pipe. Il s'engage auprès de son supérieur à la laisser repousser. Donc la moustache devient un élément à part entière de l'uniforme policier sous la Troisième République.
Le général Boulanger s'est rendu populaire auprès d'une partie de l'armée en autorisant notamment les sapeurs à porter la barbe. Mais ne nous égarons pas et arrivons au début de la Troisième République, Quentin de Lermoz, si vous le voulez bien. Et je voudrais vous faire entendre un propos de Gambetta après l'installation définitive de la République contre la tentation monarchiste. Et c'est un extrait du journal La République Française qui est lu ici par Olivier Martineau dans l'émission de Xavier Mauduit, Le cours de l'histoire, 18 février 2020.
La police de la République doit désormais s'inspirer, comme tous les services publics, du seul intérêt de la justice. La police, dans de telles conditions, ne sera ni moins honnête, ni moins respectable que toute autre grande administration. Elle n'aura ni blouse blanche, ni faiseur de bombes. Il y a là, comme partout ailleurs, un héritage ignoble que nous ne saurions accepter pour le nouveau régime, l'héritage du système impérial, ce régime détestable qui vivait par la police. Le chef de la police républicaine lui assurera une considération plus solide et plus réelle en inspirant à son personnel le plus scrupuleux respect de la légalité.
Gambetta insiste naturellement sur la rupture. Nous sommes parfois, comme historiens, plus sensibles à la continuité. D'abord, un mot sur ce que sont les blouses blanches, il faut l'expliquer.
Oui, il fait référence en fait au vaste mouvement de foule, voire aux journées quasi révolutionnaires de la fin du Second Empire à partir des années 1868-1869 et aux accusations de provocation policière. Donc il y a une affaire célèbre qu'on appelle le complot des blouses blanches, il fait référence à ça. Donc il renvoie vraiment à l'imaginaire négatif de la police et surtout du Second Empire.
Si on est attaché à la continuité, malgré les belles ambitions qu'il faut saluer de Gambetta, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer la personnalité coruscante du préfet Andrieux, le père d'Aragon d'ailleurs, père naturel d'Aragon, qui a été ensuite chargé de ce secteur et qui, lui, n'a pas hésité à utiliser des provocateurs, en particulier pour lutter contre le début du mouvement anarchiste.
Oui, les pratiques policières, en fait, ont une vie qui passe au-delà des changements de régime. C'est le cas des pratiques de provocation, bien sûr, mais c'est même le cas de cette police-là. Parce que le paradoxe, au fond, c'est que ce que décrit Gambetta, c'est la reprise de la même police. On garde la préfecture de police, alors qu'elle avait été critiquée par les Républicains tout au long du Second Empire.
On change le nom, donc.
On change le nom, mais c'est les mêmes agents, pour la plupart. Donc la question, c'est comment républicaniser ces nouveaux agents. La seule vraie rupture, ça a été la Commune, en fait, d'une certaine manière. Parce que pendant la Commune... les sergents de ville sont vraiment décrits comme des ennemis de la Commune. Ils sont associés aux Versaillais, aux Prussiens, aux magistrats. Donc la plupart des policiers quittent la ville à ce moment-là.
D'autres sont fusillés.
D'autres sont fusillés, en tout cas pendant la prise des otages. Et surtout, les appartements des agents, pendant comme ils sont connus dans leur quartier, sont visités, perquisitionnés, ouverts. L'idée étant, au fond, d'éliminer du Paris communard toute trace, tout scorie de l'ordre ancien. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes communards vont reprendre les anciennes fonctions de police, notamment les commissaires de police, les inspecteurs, un peu moins les sergents de ville. Ils seront condamnés ensuite pour usurpation de fonction. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, au fond, c'est que lorsque les communards prennent en main la ville, ils vont se réapproprier les mêmes fonctions que celles qui étaient présentes auparavant pour faire vivre de façon communarde cette nouvelle cité parisienne. Alors, ils reprennent les mêmes choses, mais ils font pas la même chose, évidemment. Notamment, il n'y a plus du tout de questions de code, de règlement. On intervient au nom de la loi avec un grand L, au nom de la justice avec un grand J. Et ce que mettent en place les commissaires de police, c'est ce qu'ils appellent le bon droit, c'est le bon droit des ouvriers. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de négocier jusqu'à ce qu'on aboutisse à un accord, plutôt que d'appliquer une norme de façon rigide. Au moment où la Commune s'arrête, pour le nouveau régime qui se met en place, la question c'est de savoir quelle police on va pouvoir adopter. Alors il y a un grand débat. La municipalité qui est enfin élue au suffrage universel masculin demande de s'approprier sa police, ça marche pas. Le pouvoir en place essaye de militariser sa police parce qu'il veut asseoir l'ordre dans la ville, on est en pleine perte de morale, ça ne marche pas, donc c'est une situation de statu quo. Et le nouveau régime, c'est ça qui est intéressant au fond, c'est que sur cette question de police de proximité, on a une continuité très grande entre la Second Empire et la Troisième République, malgré les déclarations de rupture telles que celles qu'on vient d'entendre chez Gambetta.
Mais une vraie rupture, en tout cas une évolution marquée, se dessine un peu plus tard, autour de la personnalité de celui qui a été pendant 18 ans, avec une brève interruption, préfet de police, c'est-à-dire Louis Lépine.
Tout à fait.
Personnage qu'il faut restituer, d'autant plus que le raconter, c'est aussi raconter l'histoire d'une évolution qu'il a largement voulu lui-même.
Oui, en fait, Louis Lépine, il s'insère dans cette transformation. C'est-à-dire qu'en réalité, le gardien de la paix de la Troisième République n'est plus tout à fait le même que celui du Second Empire. C'est lié à des choix politiques, Lépine en est un exemple, mais c'est aussi lié à une transformation des administrations à l'époque. Deux exemples, en fait. À partir des années 1880, le recrutement devient beaucoup plus sévère. Lépine met en place ce qu'il appelle l'examen de Binet.
L'examen de Binet, c'est-à-dire ?
En fait, ce que souhaite Lépine, c'est de pouvoir, en plus de la surveillance du fait qu'ils savent bien lire et écrire, du fait qu'ils soient grands, on augmente la taille. Il fallait faire 1m68 sous le Second Empire. Il faut faire 1m70 sous la Troisième République pour devenir gardien de la paix.
C'est cruel pour ceux qui mesurent 1m69 et qui ont la vocation.
Impossible. Il y a des plaintes qu'on retrouve. 1m69, vous n'êtes pas gardien de la paix. Et puis Lépine y ajoute l'examen de Binet, c'est-à-dire qu'il veut s'assurer que les agents correspondent à l'image que lui s'en fait. Ça montre à quel point la question de la visibilité, de la tenue, de l'allure des agents, en fait, est importante.
Il a été préfet de police de 1893 à 1897, et de nouveau, après une brève interruption, entre 1999 et 1913, donc 18 ans.
Tout à fait.
Avec, au fond, trois lignes de préoccupation. Il voulait naturellement rétablir l'ordre, mais aussi faire aimer la police, et puis être populaire. Il est assez bien parvenu par toutes sortes de méthodes de communication. Alors, détaillez-nous un peu tout cela, Quentin de Lhermoz.
Alors tout d'abord, il y a des transformations avant l'épine, une école pratique de la police se met en place en 1883.
Enfin une formation.
Enfin une formation très, très légère, hein. La surveillance est quand même plus soutenue, l'encadrement est plus important, et puis surtout on essaye d'apporter des valeurs républicaines au corps des gardiens de la paix. C'est tout l'enjeu de cette histoire du corps des gardiens de la paix qui est mise en place, qui est écrite en 1896. Alors c'est lancé avant l'épine, mais l'épine le soutient évidemment. L'idée au fond, c'est d'écrire une histoire du corps qui s'insère dans le grand récit républicain, qui en même temps s'insère dans le récit de la nation, et qui donne aux agents les nouvelles valeurs républicaines, le dévouement, le zèle, le respect de l'autorité, etc.
Rien de plus actuel que cette interrogation sur l'indispensable formation des policiers dans la ville.
Alors, sur la période actuelle, un des enjeux majeurs, si on veut avoir une police qui soit plus à l'écoute des populations, c'est la question de la formation, que beaucoup jugent pas assez importante. Il y a eu des débats, il y a eu même une demande de la part de certains acteurs policiers d'avoir des cours de sociologie pour pouvoir avoir une meilleure connaissance et une meilleure appréhension des groupes auxquels ils sont confrontés. Donc ça, c'est un débat très contemporain aujourd'hui. La version de 1883, elle n'est pas du tout de cet ordre-là. Il s'agit juste de rappeler aux agents qu'il y a quelques règlements à bien connaître et quelques lois à faire appliquer de façon un peu plus rigoureuse que d'autres une fois qu'ils sont dans la rue.
L'autre question que notre actualité pose, c'est celle de l'encadrement des policiers sur le terrain par les commissaires et par d'autres responsables.
Oui, et en tout cas, il est amélioré sous la Troisième République. Ce qu'ajoute en réalité surtout la Troisième République, c'est cette histoire de l'application des valeurs. On va demander aux agents de se couler dans ce nouveau langage du dévouement républicain. C'est assez important, hein, parce que Jean-François Chenet, dans un livre qui avait fait date, qui s'appelait « L'école républicaine » ou « Les petites patries »,
Grand historien,
rappelait qu'au fond, pour se faire accepter, l'éducation nationale avait d'abord développé des récits locaux qu'ils avaient réinsérés dans le grand récit national. Et je pense qu'on peut faire la même chose pour pas mal d'administrations de la Troisième République, les sapeurs-pompiers, les enseignants et également les gardiens de la paix.
L'épine a le sens des signes, l'uniforme, uniforme d'été, uniforme d'hiver. Il y a l'apparition, vous le disiez tout à l'heure, du bâton blanc, le sifflet aussi. Et puis la bicyclette, les hirondelles datent de l'épine.
Tout à fait. Ça, c'est la grande transformation également de la Troisième République. C'est le rôle nouveau des médias, de la médiatisation et de la communication policière. À partir de 1881, la censure de presse est abolie. Et on rentre dans l'ère médiatique, donc c'est les grands journaux qui tirent à plus d'un million d'exemplaires. Et l'épine, il n'est pas le seul, mais c'est vraiment lui qui pousse ça le plus loin. Il comprend ça très bien, en fait. Donc il va essayer de développer une communication policière qui répond aux évolutions de l'imaginaire social. Alors que se passe-t-il dans cet imaginaire social? Deux choses, c'est ce qu'on a entendu au début de notre entretien en réalité. Tout d'abord, il y a cette angoisse sécuritaire neuve avec cette idée de l'armée du crime. Et le grand discours qui se développe, c'est celui de l'inefficacité policière. En fait, les agents sont plus nombreux, mais ce qu'on va lire dans toute la presse, de gauche comme de droite, c'est que les agents sont désormais inefficaces contre cette abominable armée du crime. Le deuxième élément, qui est plus positif pour la police, c'est que comme ils sont inefficaces, ils apparaissent plus sympathiques. Il y a une image très célèbre de publicité pour un réglisse ZAN. On voit un policier vieilli, la moustache est tombante, le ventre est bedonnant, et son bâton, c'est un bâton de réglisse. Et c'est le moment, du coup, où on va pouvoir dire que les agents sont de braves gens. Et en fait, c'est le moment aussi où les agents vont pouvoir commencer à devenir aussi des guides touristiques dans la ville.
Oui, 1893, la chanson que je vous ai fait entendre tout à l'heure.
On est exactement en plein dedans. Alors, que fait l'épine par rapport à tout ça? Il va essayer de répondre à ces attentes. Alors, le bâton blanc, c'est quand même une invention assez extraordinaire. Et l'idée, au fond, c'est la suivante, c'est que les Anglais ont un bâton noir qui sert à taper. La France se dote d'un bâton blanc en bois plus souple, blanc, noir, qui sert à la régulation des flux de circulation.
Le sifflet?
Le sifflet, c'est le même argumentaire, c'est-à-dire c'est de créer un espace sonore régulé qui vise à faire en sorte que les flots de circulation qui deviennent de plus en plus angoissants pour une partie de la population apparaissent comme mécaniques d'une certaine manière. Le gardien devient une trace de la mécanique urbaine.
L'arrivée des automobiles en particulier donne plus d'importance au rôle d'agent de la circulation que ce n'était le cas auparavant.
Oui, tout à fait. C'est non seulement l'arrivée des automobiles, mais c'est le fait qu'il y a des automobiles en plus des voitures hippomobiles, en plus des automobiles. Donc en fait, on a différents rythmes qui commencent à occuper la chaussée. Donc ça demande une régulation un peu plus forte. Sur cette logique-là, l'épine réussit. C'est-à-dire qu'il arrive à créer l'image d'un agent au service des Parisiens. Là où il échoue, c'est pour répondre à la peur de l'inefficacité policière.
Alors, les apaches surgissent.
Exactement. Et la grande mesure de l'épine, pour ça, c'est les chiens policiers. En 1907, Hein, il dote les agents de chiens de police. Il y a toute une communication qui l'accompagne où, en gros, les chiens de police apportent au policier qui est devenu trop civilisé la petite touche d'animalité qui lui manque pour répondre à la vraie menace que sont les Apaches. Les Apaches qui sont décrits comme des loups à l'époque. Donc il y a tout un imaginaire, hein, du lien entre le loup et le chien. De la même manière, hein, on l'avait entendu un petit peu auparavant, il va essayer de donner un tour plus militaire à ses agents. Il leur fait faire des exercices. Donc on les voit faire des pompes, il y a des photographies qui sont faites. Et avec des cartes postales, on voit des agents en train de faire des pompes dans la cour de la caserne de la préfecture de police.
Les agents envahissent, ce qui est un signe, les cartes postales, de fait.
Oui, tout à fait. C'est une des traces de cette nouvelle image de l'agent plus positive. Donc il essaie de donner une image de force aux agents. Mais dans l'imaginaire social, la peur de l'Apache l'emporte nettement.
Les Apaches ont été beaucoup étudiés par celui qui a été votre maître, qui a dirigé votre thèse, Quentin de Lermoz, et le très regretté Dominique Khalifa.
Oui, d'ailleurs, cette thèse est une forme d'hommage à son travail, hein, puisque ça s'inscrit directement dans ses analyses. Les analyses sur l'imaginaire social de l'Apacherie, on les doit évidemment à Dominique Khalifa. Les Apaches, ce sont les jeunes, ouvriers, alcooliques, criminels, et qui incarnent en fait l'envers de ce qu'on estime être la civilisation urbaine, et qui en fait incarne surtout toutes les peurs de la Belle Époque. C'est une pure invention médiatique et politique sur laquelle Lépine va savoir jouer pour imposer son image policière.
Eh bien, écoutez donc ce rapport spécial du 4 juillet 1905 sur le cas du malheureux agent Bess qui a été tué par un Apache. Et puis, après un extrait de la presse du 10 juillet 1905, vous ne douterez pas que c'est une presse de droite.
Paris, le 4 juillet 1905. Rapport spécial. À 2h du matin, rue des Partants, en face du numéro 2, les gardiens Bess et Moindreau, ayant fait les observations à plusieurs individus qui sortaient d'un débit de vin en faisant du tapage, l'un de ceux-ci déchargea aussitôt son revolver sur le gardien Bess, qui fut atteint à la tempe droite. L'os frontal a été perforé et la balle s'est logée dans le cerveau. Actuellement, l'état du gardien stagiaire Bess est désespéré. La presse, 10 juillet 1905. Le jeu de massacre. Le gardien de la paix Bess a voulu sévir contre les Apaches. Il a reçu une balle dans la tête. Il est mort. Il avait 24 ans. Sa mère, fière mais inquiète de le savoir au poste d'honneur, lui écrivait 1000 recommandations à l'heure où on l'assassinait. Quand la lettre maternelle fut ouverte, les yeux du fils étaient clos, pour toujours. Le meurtre d'un agent devient chose banale. On déplore et l'on discourt, puis l'on passe au suivant. Le brave agent Bess, après beaucoup d'autres glorieusement tombés comme lui, a honoré sa famille, sa carrière et son pays. Mais si, au lieu d'avoir été tué par un Apache, il s'était permis d'oxyre un de ces intéressants personnages, combien plus retentissante eût été sa célébrité ? Une interpellation à la chambre n'eût pas manqué de se produire. Le gardien de la paix coupable eût été destitué sur l'heure. Toutes les sensibilités littéraires auraient battu des ailes et fait courir leurs plumes. On aurait crié dans les rues « Le sergent de ville assassin !» et réclamé pour lui cette peine de mort que pour les criminels de profession, les humanitaires voudraient supprimer. Par bonheur, rien n'est interverti dans l'ordre des choses. L'agent est mort, l'Apache intacte.
C'est le moment d'ailleurs où, c'est un peu plus tard, que le conseil municipal de Paris a viré à droite parce qu'il y a eu un grand débat pour savoir s'il fallait donner le nom d'une rue à l'anarchiste Francisco Ferrer qui venait d'être garrotté en Espagne ou à un agent qui avait été victime effectivement d'assassins dans la rue. La majorité a basculé et souhaité choisir le nom de l'agent pour dénommer l'artère en question.
Oui, là on a un exemple caractéristique d'une nouvelle catégorie qui émerge, qui est une catégorie, vous l'avez dit, médiatique, institutionnelle, soutenue par le conseil municipal, la préfecture de police et également le ministère de l'Intérieur, qui est la catégorie de victimes du devoir. Des policiers évidemment sont tués avant la Troisième République, mais à partir des années 1896-97, lorsqu'un agent est tué en fonction, on va en faire une victime du devoir. Il y a tout un discours qui est mis en place, tout un rituel. Le conseil municipal vote des funérailles publiques. Alors ça c'est intéressant parce que on a une espèce de condensé un petit peu de notre discussion. Derrière la figure des victimes du devoir, le policier finit par symboliser l'ensemble de cet ordre menacé. C'est l'intégration de cet agent crée un nouveau partage entre d'un côté la civilisation, de l'autre côté la barbarie, d'un côté les honnêtes gens, de l'autre côté les criminels et les marginaux. Donc en fait, ça a un effet un peu paradoxal, c'est que c'est au nom de la civilisation, de la défense de cet ordre social nouveau, qu'on va mettre en place des mesures qui sont de type sécuritaire, extrêmement nettes. le texte en parle. Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'abolition de la peine de mort sous la Troisième République, c'est précisément en mettant en avant les attaques qui sont faites à l'égard des agents. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est que cet imaginaire et ce partage, on le retrouve jusqu'à aujourd'hui. En fait, on a un temps un peu cyclique de l'imaginaire de l'Apache. On avait les Apaches, après on a eu les Bousons Noirs, aujourd'hui c'est les Voyous. Et à chaque fois, on a cette espèce d'opposition entre les bons et les méchants qu'on a encore entendu réutiliser récemment.
On est plus dans le cyclique que dans le linéaire, c'est ça que vous nous dites.
Oui, tout à fait. Et avec un cyclique qui, à chaque fois, sert à justifier un durcissement policier. Ce que les sociologues ont bien démontré pour notre situation présente depuis les années 2000. Donc là, on a une matrice, en fait, qui se met en place à la fin du 19e siècle, qui va rejouer, avec des fois des phases d'abaissement et d'autres fois des phases de rejeu, qui va rejouer jusqu'à aujourd'hui.
Mais dans le même temps, un homme comme Lépine continue de défendre l'idée que les policiers doivent être proches de la population et qu'ils doivent aussi exprimer les désirs et parfois combler les frustrations de ceux-là au service de la population, au moins autant qu'au service de l'État. C'est très clair dans les discours justement qu'il prononce lors de ses funérailles.
En fait, Lépine, il hérite de ce double lien d'une police qui est à la fois au service de l'État et au service de la population. Simplement, j'ai envie de dire que il le met au service d'une certaine population. C'est-à-dire qu'on a quand même dans cette idée, qui est de l'ordre de l'imaginaire, hein, qui est une opposition entre une bonne population et une mauvaise population. Et le discours de Lépine, c'est de mettre cet agent au service de la bonne population contre la mauvaise population, qui est un discours qu'on n'avait pas sous le Second Empire. Ça, c'est l'intérêt de faire de l'histoire. Ce discours-là n'a pas une telle netteté sous le Second Empire, parce que la police n'a pas cette forme d'intégration, elle ne peut pas servir en fait à opposer comme ça une partie de la société contre une autre.
On peut d'ailleurs signaler, ce n'est pas notre sujet ce matin, mais c'est important que Lépine a également renouvelé la manière dont l'État pouvait organiser les manifestations. Il était arrivé en fait au pouvoir à la préfecture de police parce que la police avait tué un étudiant au Quartier Latin, et pendant toute la période de Lépine, il n'y a jamais eu un mort dans aucune manifestation. C'est tout de même très frappant.
Oui, oui, ça fait directement partie de notre sujet, parce qu'en fait, c'est des gardiens de la paix qui font partie des brigades centrales. Et ça montre que c'est lié à des choix politiques. Lépine était donc il faut rendre hommage à Jean-Marc Berlière,
son biographe.
La meilleure biographie de Lépine. Mais Lépine est quelqu'un qui avait parfaitement compris les enjeux de limiter la violence policière. En fait, ce qu'il met en place, c'est un système où, au lieu d'enfermer les manifestants pour leur taper dessus, on facilite la dispersion. Donc, facilitant la dispersion, il y a moins de contacts et donc il y a moins de morts.
Ce qu'on appelle le manège mouquin, c'est le mouquin qu'il avait inventé. Il faut toujours il faut limiter les manifestants par groupe et il faut toujours leur laisser un moyen de s'échapper.
C'est ça. Et du coup, ça a un effet qui est directement visible, c'est qu'effectivement, on n'a pas de morts, alors que la Troisième République est un moment de tension sociale et politique très fort. Il n'y a pas de morts à Paris, sachant qu'il y en a ailleurs, on pense au 1er mai à Fourmies en 1891, où là c'est l'armée qui intervient. Et il y en a après, dans le cadre de la lutte anticommuniste dans les années 1920-1930, on a à nouveau des morts. Donc ça veut bien dire qu'il y a un lien en fait entre les modes d'encadrement des foules et la possibilité ou non de morts au cours de ces oppositions.
Le préfet Cap, au moment du 6 février, n'est pas en effet dans la ligne de Lépine, alors que Maurice Grimaud, en 68, avait de fait lu les mémoires, qui sont très intéressants, les mémoires de Louis Lépine.
Alors après, ce que vous évoquiez tout à l'heure, justement, hein, c'est qu'il y a aussi un débat gauche-droite à l'époque autour de cette figure policière. Ce discours dont on vient de parler, ces humanitaires, ils existent, c'est-à-dire sans le discours négatif qui va avec. Mais sous la Troisième République, on a aussi la mise en place de toute une culture juridique, tout un monde d'avocats, d'associations qui luttent contre l'arbitraire de l'État et qui entendent justement réguler l'action policière et éviter qu'elle aboutisse à des débordements ou à des actes qui sont jugés comme étant des abus de pouvoir. Donc il y a un vrai rapport de force politique derrière les discours qu'on vient d'entendre, entre d'un côté ceux qui disent « voilà, la société est menacée, il faut libérer l'action policière », et en face, une gauche qui dit au contraire que si on veut que la police soit réellement républicaine, il faut qu'elle soit davantage régulée, parce que la force qu'elle détient doit être mise au service de la population.
Sans compter des mesures sociales dont Lépine était également friand, c'est-à-dire s'occuper de la retraite des veuves, etc., etc. Ce qui n'est pas non plus sans importance pour l'attrait de la profession.
C'est même majeur, puisque ce qui met en place, c'est deux choses. C'est d'une part une augmentation des traitements, et surtout une augmentation des échelonnements des traitements, ce qui fait que les agents ils peuvent commencer à imaginer une carrière dans la police, ce qui n'était pas le cas auparavant. En leur créant une carrière, eh bien, ils facilitent une possibilité d'investissement dans la carrière, et ça facilite la façon dont ces agents vont se sentir eux-mêmes policiers. Même chose pour les victimes du devoir, vous l'avez dit tout à l'heure, être victime du devoir, ça garantit à vos enfants, voilà, évidemment le policier est mort, mais en tout cas l'accès en fait à un certain nombre de droits auxquels ont droit à l'époque les pupilles de la nation. Et puis, ça c'est très républicain, certains de ces agents vont donner leur nom à une rue. C'est le cas de l'agent Bailly en 1909. Donc il y a toute une logique. Il y a une tension au sein de la Troisième République entre deux manières républicaines de considérer la police.
Il y a un aspect brutal, un aspect assez pacifique. Vous citez, je terminerai là-dessus, en épigraphe, un mot de Georges Perec dans « Espèce d'espace » 1975. Il y a un monsieur qui promène son chien, un autre qui lit son journal sur un banc. Il y a un agent qui règle la circulation, image d'Épinal. Merci beaucoup, Quentin de Luermoz, de nous avoir permis de retrouver ces policiers dans la ville entre 1854 et 1914, avec évidemment des rapprochements qui peuvent s'imposer, des différences aussi avec aujourd'hui. Votre livre s'appelle « Policiers dans la ville, la construction d'un ordre public à Paris, 1854-1914 », avec une préface de Dominique Khalifa que nous célébrions tout à l'heure aux publications de la Sorbonne en 2012. Et puis au-delà de ce thème que nous avons traité, je veux aussi évoquer avec considération plusieurs de vos ouvrages, Quentin de Luermoz, ceux sur la Commune, nous avons évoqué la Commune, collection Univers historique, Commune au pluriel, 1870-1871, et puis j'avais reçu ici Pierre Saint-Garavelou, votre complice, avec lequel vous avez publié un livre sur cet exercice que nous aimons de plus en plus, nous autres historiens, c'est-à-dire l'histoire contrefactuelle, l'Uchronie, vous aviez appelé ça pour une histoire des possibles. Je signale enfin que vous êtes de l'équipe qui a publié récemment aux éditions de La Découverte une histoire globale des révolutions qui mérite assurément d'être consultée. Nous citions le talent et l'œuvre de Jean-Marc Berlière avec René Lévy notamment. Il a écrit une histoire des polices en France, de l'ancien régime à nos jours, aux éditions du Nouveau Monde. Et puis il faut rendre hommage à l'histoire des polices en France, paru chez Belin en 2020, sous l'autorité de Joël Cornette qui dirige cette belle collection, avec Emmanuel Blanchard, Arnaud-Dominique Hout et Vincent Milliot. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, elle est très riche, sur notre site avec des références, des documents sonores que nous avons utilisés naturellement, et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission pour pouvoir dans 20 ans voir si les problématiques demeurent les mêmes.
Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, ni grands ni gros, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux en torpedo.
Sur le fond du générique de la fameuse série de télévision Les Brigades du Tigre, créée par Clémenceau avant 1914, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard et Anna Holweck, avec à la prise de son Florent Layani, avec Célian Guimard à la discothèque, Isabelle Fort-Rendu pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Corinne Chauvel, enfin, pour la documentation. Comme vous voyez, une très fine équipe.
Fou du boulot, 24 heures sur 24, frais et dispo. De vrais robots, toujours à l'affût, jamais au repos. De face, de dos, profil, ils ont nos bobines en photo. Monsieur Clémenceau, pensez à nos femmes et à nos marmots. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans.